Et avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, bienvenue, l'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, nous lancerons le débat sur l'élection présidentielle du 27 août au Gabon, d'autant que les candidats avaient jusqu'à hier soir pour déposer leur dossier à la commission électorale. En tout, il serait une vingtaine à briguer la magistrature suprême, parmi eux évidemment le président sortant, Ali Bongo Ondimba, dont la candidature est contestée par les opposants en raison, disent-ils, des doutes qui persistent sur ses origines gabonaises. Je vous rappelle que ses détracteurs affirment que le chef de l'État serait nigérian et qu'il aurait été adopté pendant la guerre du Biafra. En tout cas, nous vous donnerons la parole, évidemment, sur cette polémique qui domine les discours de l'opposition. L'opposition qui, finalement, se présente en ordre dispersé. Elle a été incapable de s'entendre sur une candidature unique. Alors, que vous inspire ce climat préélectoral au Gabon? Se dirige-t-on vers une élection tendue? Vous nous appelez ici à Paris, 33 9 693 693 70. Je vois sur mon petit écran que vous êtes déjà nombreux sur la page Facebook de l'émission. Le débat a déjà commencé, évidemment, sur les réseaux sociaux. On en parle donc dans une trentaine de minutes. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction, vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Jean, bonjour.
Bonjour, Juan.
Vous nous appelez de Pointe-Noire, au Congo, et vous avez des questions sur les déboires de Lionel Messi, condamné par la justice espagnole.
Ah, Lionel Messi vient d'être condamné à 21 mois de prison pour fraude fiscale. Alors, que lui est reproché exactement? Est-ce que c'est lié avec l'affaire de Panama Papers? Quelles peuvent être les conséquences sur sa carrière de footballeur?
Ouais, Lionel Messi et son père, hein, tous les deux ont été condamnés à 21 mois de prison et à une amende de plus de 3,5 millions d'euros. Bonjour Antoine Grenier.
Bonjour Juan et bonjour à Jean.
Merci d'être avec nous, journaliste au service des sports d'RFI. La justice espagnole a donc reconnu coupable le quintuple Ballon d'Or d'avoir caché des revenus au fisc.
Oui, c'est ça, c'est une affaire qui remonte à 2013, en tout cas pour la justice espagnole qui a commencé à enquêter à ce moment-là. Il aurait caché des revenus liés à son droit à l'image, en gros. Il tournait des publicités, il touchait de l'argent pour ça, et son père, qui gère ses affaires, qui gère l'argent de Lionel Messi, aurait fait une sorte de montage financier en passant par des pays un peu opaques comme le Belize ou la Suisse pour dissimuler environ 4 millions d'euros au fisc espagnol sur une période allant de 2007 à 2009, donc au moment où Lionel Messi et ses revenus commençaient à exploser.
Ouais, en tout cas, pour sa défense, Lionel Messi a affirmé qu'il ignorait tout de ce montage financier organisé par son père. Messi dit « Moi, je ne faisais que jouer au football. Mes parents, mon père, en tout cas, s'occupait de ma fortune. »
Et c'est pas impossible quand on connaît la personnalité de Lionel Messi, qui est tout entier consacré au football. Le FC Barcelone, le club qu'il a rejoint alors qu'il avait 14 ans, a tout fait pour qu'il ne s'intéresse qu'à ça. Il faut dire que quand on a une star d'un niveau et un talent de cet acabit, on fait tout pour le protéger. Effectivement, il avait dit que moi, je jouais au football, je faisais confiance à mon papa et à mes avocats et je n'étais au courant de rien. La justice espagnole, dans une certaine mesure, a considéré que cette version était crédible, mais l'ampleur de la fraude présumée a fait que elle a quand même condamné Lionel Messi non seulement à cette peine de 21 mois de prison, mais également à des amendes de 2 millions d'euros à payer par Lionel Messi et de 1 million d'euros pour son père. Pas de quoi les mettre sur la paille. Hein. Lionel Messi, il gagne 80 millions d'euros par an à peu près.
Ouais. Alors Jean nous rappelait effectivement que le nom de Messi apparaît dans le scandale des Panama Papers. Faut-il y voir un lien avec cette affaire dont nous parlons?
Alors c'est pas forcément évident. D'après Le Monde et un journal en ligne espagnol, la star du Barça et son père sont devenus le 23 juin 2013 les bénéficiaires économiques d'une société qui s'appelle Megastar Enterprise. En 2015, donc le père de Messi en est devenu l'actionnaire unique. C'est une société qui est domiciliée au Panama, qui a été créée par Mossack Fonseca, le fameux cabinet qui est au centre de l'affaire des Panama Papers. mais ces accusations-là ont été démenties par le joueur pour qui cette fameuse société, Megastar Enterprise, n'a jamais eu ni de fonds, ni de compte courant ouvert. D'ailleurs, il a menacé Lionel Messi d'attaquer en justice les entreprises de presse qui avaient révélé ces informations. L'affaire, en tant que telle, n'est pas finie, d'ailleurs, puisque le joueur a annoncé son intention de faire appel devant la justice espagnole de sa condamnation à 21 mois de prison.
Devant même la Cour suprême espagnole. Quelles conséquences cette affaire peut-elle avoir sur la carrière de Lionel Messi ?
Alors directement aucune, ouais. Parce qu'il n'ira pas en prison. La justice espagnole prévoit que en dessous de 24 mois, donc 2 ans de prison, d'une condamnation de moins de 2 ans de prison, on n'est pas forcé d'être incarcéré. En revanche, indirectement, ça peut peser parce que Messi s'estime victime d'une injustice. Il estime que on s'est acharné sur lui, alors que d'autres joueurs, comme son ancien coéquipier Daniel Alves, devaient aussi de l'argent au fisc espagnol et n'ont pas été condamnés avec autant de vigueur et leur affaire a été beaucoup moins médiatisée. Du coup, l'idée du côté de Lionel Messi germe d'un départ. Son contrat expire en 2018 avec le FC Barcelone et il réfléchit à tout simplement quitter l'Espagne.
Ah, il pense déjà à quitter l'Espagne. Son club, pour l'instant, le soutient. Le Barça a même lancé une campagne de soutien sur les réseaux sociaux.
Et d'ailleurs, ça s'est un petit peu retourné contre le Barça parce que ils avaient créé un hashtag « Nous sommes tous Messi ». Et le problème, c'est que les internautes ont très mal pris ça en disant que nous, on paye nos impôts, oui. Donc on n'est pas du tout Messi. Ça s'est un petit peu effectivement retourné. Les internautes ont considéré que cette campagne était un petit peu excessive.
Oui, des internautes choqués que le Barça soutienne une personne condamnée pour fraude fiscale, quand bien même cette personne s'appelle Lionel Messi. Jean, on a répondu à vos questions ?
Tout à fait, merci beaucoup.
Eh bien, bonne journée à Pointe-Noire et merci à Antoine Grenier du service des sports d'être venu ce matin. 33 9 693 693 70, vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Blaise, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Vous êtes en Côte d'Ivoire ?
Oui, je suis en Côte d'Ivoire, je suis à Boisfré.
Ah, très bien, merci de nous appeler. Vous avez une question concernant Theresa May, la future première ministre britannique.
Oui, c'est bien cela. C'est aujourd'hui que Theresa May succède à David Cameron. Alors je voudrais savoir pourquoi Theresa May est si souvent comparée à Margaret Thatcher et quelle sera sa nouvelle ligne politique.
C'est vrai qu'elle est souvent comparée, à tort ou à raison, à Margaret Thatcher, la dame de fer qui a gouverné le Royaume-Uni dans les années 80. Premier point en commun, c'est que Theresa May sera la deuxième femme première ministre de l'histoire du Royaume-Uni après Margaret Thatcher. Pauline Schnapper, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de civilisation britannique contemporaine à l'université Sorbonne Paris 3. C'est vrai qu'il y a plusieurs points en commun hein, entre Margaret Thatcher et Theresa May. Ils sont peut-être exagérés. Ce qu'on peut dire déjà pour commencer, pour répondre à Blaise, c'est que toutes les deux ont affiché leur scepticisme à l'égard de la construction européenne. Ça, c'est déjà un point en commun.
Oui, tout à fait. Il y a quelques points communs, à part le fait, comme vous disiez, que ce sont des femmes et qu'elles sont donc toutes les deux leaders du Parti conservateur désormais et Premier ministre. Il y a aussi un petit point commun, peut-être dans leur style un peu austère, l'une et l'autre, et leur caractère bien trempé, bien affirmé. Et puis, alors, sur la question européenne, évidemment, c'est difficile de comparer quelqu'un qui a été Premier ministre il y a 30 ans avec quelqu'un qui l'est aujourd'hui, parce que l'Europe a beaucoup changé, bien sûr, et les circonstances ont beaucoup évolué. Margaret Thatcher, au départ, n'était pas du tout anti-européenne. Elle l'est devenue progressivement au cours des années 80. Quant à Theresa May, aujourd'hui, elle est un petit peu ambiguë. Elle a souvent été très critique vis-à-vis de l'Union européenne ces dernières années en tant que ministre de l'Intérieur. Elle avait quand même affirmé être pour le maintien dans l'Union européenne au cours de la campagne référendaire.
Du bout des lèvres.
Absolument. sans beaucoup faire campagne. Elle a été totalement absente des plateaux télévision pendant la campagne. Et on sentait très bien qu'elle voulait se garder la possibilité de se présenter ensuite comme candidate pour unifier son parti. Et c'est certain que ce n'était pas une grande pro-européenne. Ça, c'est sûr.
Ouais. Autre point en commun, peut-être exagéré là aussi, on ne sait pas, vous nous le direz, Pauline Schnapper, toutes les deux, Margaret Thatcher et Theresa May, sont libérales économiquement.
Oui, alors là, c'est peut-être un tout petit peu à nuancer, c'est-à-dire qu'on manque un peu en fait d'informations vraiment sur ce que va faire Theresa May, parce que jusqu'à maintenant, elle a très peu parlé en dehors de ce qui était son ministère, c'est-à-dire des questions de, elle était ministre de l'Intérieur, donc de police, etc., d'immigration. On l'avait très peu entendu sur les questions économiques. Or, ces derniers jours, elle a fait un discours pour présenter sa candidature, dans lequel elle s'est présentée de façon assez différente du néolibéralisme de Margaret Thatcher, en parlant de la nécessité de limiter les salaires des grands patrons, par exemple, de mieux protéger les travailleurs au sein des entreprises. Enfin, le genre de choses qu'on n'attendait peut-être pas forcément de dans sa bouche.
Ouais, donc elle a une fibre sociale qui n'apparaissait pas chez Margaret Thatcher.
En tout cas, l'annonce, il faudra voir évidemment dans la pratique ce que ça donne. Est-ce que c'est vraiment juste de l'ordre du discours pour un peu montrer sa différence par rapport au gouvernement sortant, ou est-ce que vraiment ça sera mis en application avec des réformes spécifiques? C'est vraiment trop tôt pour le dire. Mais en tout cas, il y a un discours qui est légèrement différent de ce point de vue-là de ce qu'on aurait pu attendre d'une Margaret Thatcher.
Oui, et puis sur les questions sociales, on présente Theresa May comme étant bien plus ouverte que Margaret Thatcher. Theresa May a voté le mariage gay il y a 3 ans, elle fait partie de ce qu'on appelle les modernisateurs au sein des conservateurs. Et d'ailleurs, un discours qui avait frappé les esprits, je crois que c'était, si ma mémoire est bonne, au début des années 2000, elle avait qualifié son propre parti, le parti des conservateurs, comme étant le parti des méchants, pour essayer de modifier l'image de ce parti et de se débarrasser un peu des mauvais aspects de l'époque Thatcher, non ?
Oui, c'est un peu la seule chose dont on se souvient d'elle, pour tout dire, avant 2010, avant qu'elle devienne ministre. C'est cette déclaration un peu fracassante qui allait dans le sens, en réalité, de ce que voulait faire David Cameron et de ce qu'il a fait quelques années plus tard, qui était de vouloir... on était en pleine période travailliste, hein, Blair, et elle voulait moderniser son parti pour le faire apparaître de façon moins négative. Et donc, de ce point de vue-là, c'était en 2002, donc 3 ans avant que David Cameron devienne leader du parti. Et donc, elle lui avait un peu ouvert la voie de ce point de vue-là. Cela dit, pour tout dire, c'est un peu tout ce qu'on a entendu d'elle pendant toutes ces années. C'est pas quelqu'un qui a beaucoup marqué les esprits par des déclarations tonitruantes ou par une approche très très différente. C'est quelqu'un de pragmatique, manifestement, de prudent, peut-être plus à la Angela Merkel d'ailleurs qu'à la Margaret Thatcher.
Effectivement, c'est vrai que certains observateurs voient plutôt des similitudes avec une autre femme de pouvoir européenne, Angela Merkel. Merci d'avoir été avec nous, Pauline Schnapper, ce matin, et on suivra évidemment de près les premières réactions de Theresa May dans le courant de la journée. 33 9 693 693 70. Jean-Marc, vous nous appelez de Kigali. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour Anne, bonjour à tout le monde.
Vous êtes au Rwanda, on vous écoute, quelle est votre question?
D'accord, la cour d'arbitrage de la Haye vient de rejeter l'ensemble des revendications chinoises sur la mer de Chine dans un contentieux avec les Philippines. À ce sujet, j'ai 2 questions.
Oui.
La Chine a des contentieux territoriaux avec plusieurs pays, notamment le Vietnam et l'Indonésie. Alors pourquoi est-ce que seules les Philippines ont décidé de porter ce contentieux vers cette cour d'arbitrage?
Oui, c'est vrai que c'est clairement un désaveu pour Pékin. La cour permanente d'arbitrage de la Haye a tranché hier, je cite, « Les revendications de Pékin en mer de Chine méridionale n'ont aucun fondement juridique ». Bonjour Sophie Boisseau-Durocher.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des relations entre la Chine et les pays de l'ASEAN à l'Institut français des relations internationales. Faut rappeler très rapidement, juste pour planter le décor aux auditeurs, c'est que la Chine estime que la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale relève de sa souveraineté, ce qui n'est pas évidemment l'avis des pays riverains. On parle des Philippines, mais il y a aussi le Vietnam, la Malaisie, d'autres pays. Comment se fait-il que seul un pays, en l'occurrence les Philippines, ait osé saisir cette instance internationale pour que cette question soit tranchée?
Alors, ce n'est pas indifférent, effectivement. D'une part, les Philippines ont été défiées par la Chine depuis le début des années 90 par toute une série d'occupations progressives qui a vraiment mis leurs nerfs, je dirais, à bout. Donc, absolument épuisés par ce rapport de force permanent, humiliés, les Philippines ont décidé de porter le différend sur le terrain qui était le plus faible pour la Chine, c'est-à-dire le terrain juridique. Alors, pourquoi est-ce qu'elles l'ont fait ? Pour deux raisons, à mon avis. D'une part, c'est parce qu'effectivement, elles étaient à bout, et d'autre part, parce qu'elles ont quand même le soutien des États-Unis, ancienne puissance coloniale, qui est toujours très proche de Manille, et donc il y avait, si vous voulez, une certaine assurance. Par ailleurs, précisément, le Vietnam est beaucoup plus proche de Pékin. Non seulement le Parti communiste vietnamien a des relations d'amitié, de fraternité, comme ils disent, avec le Parti communiste chinois, non seulement les investissements et les flux commerciaux entre le Vietnam et la Chine sont beaucoup plus denses, et donc la rétorsion possible sur l'économie vietnamienne serait beaucoup plus forte. Et puis enfin, parce que le Vietnam craignait la colère chinoise. Il est vrai toutefois que Manille a à différentes reprises tenté de convaincre Hanoï de lancer une procédure d'arbitrage. Alors, je reprends néanmoins la question qui a été posée. L'Indonésie est précisément un des rares pays d'Asie du Sud-Est à ne pas avoir de contentieux territorial avec la Chine, bien que effectivement la langue de bœuf, c'est-à-dire la ligne en neuf traits tracée par les autorités chinoises, frôle effectivement le nord de la zone économique exclusive de l'Indonésie.
Alors il faut avoir vraiment une carte pour voir exactement de quoi vous parlez en ce moment, mais enfin on a compris évidemment l'essentiel, cette fameuse ligne. Jean-Marc ?
Oui.
Vous avez une autre question ?
J'ai une autre question ?
Oui.
Oui. La Chine ne reconnaît pas cette cour d'arbitrage de la Haye. Alors, cette cour d'arbitrage a-t-elle les moyens de faire respecter sa décision ?
La Chine qui n'accepte pas et qui ne reconnaît pas donc l'arbitrage de la CPA, Pékin qui estime que cette cour internationale n'a pas de compétence dans cette affaire. Concrètement, que va-t-il se passer désormais, selon vous, Sophie Boisseau du Rocher ?
Alors il y a différents scénarios, mais il est vrai que la Chine n'est pas obligée de suivre l'avis de la CPA, c'est un avis consultatif.
Ah, je croyais vraiment que les décisions de la CPA étaient contraignantes.
Non, absolument pas.
D'accord.
Il n'y a aucune autorité précisément pour contraindre. D'autre part, il s'agit d'une demande unilatérale des Philippines. C'est-à-dire que la Cour aurait quelque autorité si les deux parties étaient venues lui demander son arbitrage. Mmh. Or, là, il ne s'agit que d'une demande unilatérale des Philippines. Et d'ailleurs, Pékin considère que Manille a violé un accord signé entre les deux pays en 1995, qui signifiait qu'il fallait résoudre ce différend par la négociation.
Donc ça signifie quoi, excusez-moi, Sophie Boisseau du Rocher, que la Chine va continuer donc à occuper ces îles ?
Bon, alors, c'était en fait, si vous voulez, le coup, philippin est un coup diplomatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est avéré que la Chine n'est pas dans son droit et que la Chine se comporte comme une puissance, je dirais, prédatrice. Voilà. Alors, la question, c'est est-ce que Pékin estime que le coût de ce jugement international est supérieur au bénéfice ou pas? À mon avis, Pékin, et depuis le départ d'ailleurs, Pékin a dit qu'il ne tiendrait pas compte, que la Chine ne tiendrait pas compte de cet avis, et par ailleurs, que les bénéfices pour Pékin à confirmer sa souveraineté sur cette mer sont supérieurs aux désagréments. Bon. Maintenant, la question, c'est comment vont se comporter les États-Unis et les puissances régionales. C'est-à-dire, est-ce qu'on va au coup de force ou pas? Ouais. Je crois que les États-Unis, comme les pays de l'ASEAN, n'ont aucune envie d'aller au conflit avec la Chine. Ce qu'ils espèrent, c'est qu'avec cet arbitrage, la Chine sera un peu plus isolée et donc peut-être un peu plus prête au compromis pour faire avancer ce dossier excessivement sensible.
On verra si Pékin est prêt effectivement à des compromis. En tout cas, la Chine a menacé aujourd'hui de créer dans cette zone maritime, une zone de défense aérienne à suivre évidemment avec la rédaction des RFI. Merci beaucoup Sophie Boisseau du Rocher. Boucher d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée Jean-Marc à Kigali. On avait prévu d'autres questions, mais voilà, on est un peu bavard parfois, mais c'est le principe de cette émission. On prend le temps de vous expliquer l'actualité, de vous apporter tous les éléments nécessaires afin que vous puissiez mieux comprendre tous les sujets que vous entendez tout au long de la journée sur notre antenne. Vous restez avec nous si vous le souhaitez, évidemment, je l'espère en tout cas. Dans un instant, le journal et tout de suite après, notre débat du jour sur le climat préélectoral au Gabon. À tout de suite.
Autour de la question.